voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de Sophonie, chapitre 3, et au verset 17. Sophonie, chapitre 3, verset 17, je profite que vous trouvez ce texte, la parole de Dieu, et je voudrais honorer un département qui, depuis des années, met les gens, met les hommes, des femmes, une église en lumière, et on voit leurs vidéos apparaître toutes les semaines. Je voudrais vraiment honorer le département vidéo. Vous avez là des équipes, vous avez Difa qui est là, vous avez Joël, vous avez Amos derrière moi qui se retrouve, vous avez juste derrière ici, mais vous ne le voyez pas, qui est Sergio, qui fait lui la réalisation, qui commande à toutes ces équipes de passer à une caméra 1, caméra 2, caméra 3. Alors Sergio, je te demande de laisser la caméra 1 en ligne et je t'inviterai à venir là sur l'estrade, venir à mes côtés. Il ne savait pas tout ça, personne n'est au courant, mais voilà. Et je sens qu'il est en train de trembler derrière, il ne veut pas venir. Mais tu ne me laisses pas seul, alors tu déposes le micro et tu viens me voir, s'il te plaît. Voilà, je veux vraiment honorer cette équipe vidéo. Pourquoi ? Parce que des centaines de gens, toutes les semaines, semaine après semaine, entendent, voient, écoutent le message de Dieu. Qu'est-ce que tu fais là ?
Je t'ai entendu.
Il m'a entendu, oui. Derrière, il y a une régie. Et il y a tous les écrans des témoins qui sont là avec les caméras qui sont en place et puis avec les fixes, les caméras mobiles. Et ils commandent à toutes ces caméras les images, les bons plans, les meilleurs plans. Et puis après, Sergio va faire le montage à l'étage, bien sûr, à un ordinateur. Et puis on a quelqu'un dans l'équipe qui va le dérocher et puis qui va le mettre, transférer sur YouTube pour que vous puissiez voir ces vidéos. Qui est allé voir déjà les vidéos que nous enregistrons sur Internet ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Voilà. Ça, c'est le fruit de votre travail, Sergio. C'est un travail énorme. Un travail qui est extraordinaire. Vous pouvez l'applaudir, hein, avec toutes les équipes qui sont là. Là, vous avez une partie, juste une partie, parce que vous êtes combien ?
On est 12.
Ils sont 12. Et tous les dimanches, c'est une équipe différente. Il faut savoir que quand je prêche, les caméramans n'entendent pas le message parce qu'ils sont tellement concentrés sur le réalisateur. Il y a Sergio, il y a deux, trois autres personnes qui sont derrière la réalisation. Dimanche, c'est un réalisateur différent. Mais voilà le travail de quelqu'un, d'une équipe qui est dans l'ombre et qui font briller l'image de Paris Métropole. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce ministère, comme tous les autres ministères dans l'Église, mais je voulais marquer le coup pour aujourd'hui. Alléluia. Alors, merci Sergio pour tout ça. Et je t'ai dit une chose tout à l'heure, ça, il ne faut pas le couper au montage. Hein. C'est dans ma prédication. D'accord ? Allez, bonne réalisation. Merci à toi. Sophonie, chapitre 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Quand vous lisez ce texte, il est extraordinaire. Je l'ai posté sur ma page Facebook ce matin parce que je trouvais vraiment qu'il y avait là aussi des paroles qui étaient, je dirais, porteuses vraiment d'espoir. Il est dit « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi ». Alors qu'on est une foule, mais il est au milieu de toi, de ta vie. Il est au milieu de ton cœur. Et il dit ceci comme un héros qui sauve. Et à tout moment de ta vie, et tu l'as vu dans ton parcours, dans ta marche avec Dieu, il t'a sauvé de situations, de contextes, de problèmes, de difficultés. Il t'a gardé tout à l'heure. On a entendu le témoignage de Tatiana qui disait qu'elle était à deux doigts de passer de l'autre côté. Et Dieu l'a sauvé, l'a protégé. Et il est dit dans ce passage, il a fait de toi et il fera de toi et te transportera d'allégresse. Et la parole de Dieu nous montre qu'il va nous faire bondir de joie, d'allégresse, de contemplation, d'adoration. Mais dans ce texte, il y a quelque chose de très important. Il est dit, il gardera le silence dans son amour. Ce verset est rempli de promesses, mais j'aimerais vous parler du silence. Ils n'ont pas tenu. Hein. C'est désarmant le silence. On n'a pas l'habitude dans un culte de faire silence. Vous avez remarqué ? Ça nous met, mais qu'est-ce qu'il va faire le pasteur ? ça nous met dans une ambiance de qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans un champ, il y a beaucoup de bruit, ça va, ça passe, mais le silence. Et c'est pour cela que je voulais vous parler de ça, parce que dans le silence, il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Il faut savoir que Dieu a fait silence dans les 4 siècles avant la venue de Jésus. Il a fait silence, il y a eu ce temps de silence, et le silence, c'est plus que l'absence de bruit. C'est le fait de ne pas parler. C'est le fait de ne pas écrire. Le silence, c'est le fait aussi de ne pas exprimer son opinion, de ne pas manifester un sentiment. Vous avez des gens, vous savez, vous attendez un sentiment, un geste, une réaction de sa part, mais il y a des gens qui restent comme ça, de marbre. Si la parole est porteuse d'un message, le silence est là aussi. Et j'ai parfois remarqué qu'au travers d'un silence, on parle plus que quelques paroles. Vous n'avez pas remarqué ça ? Où il y a quelque chose de très fort dans le silence. Sans faire de jeu de mots, le silence fonctionne parfois comme une caisse de résonance qui varie selon les périodes de la vie. Ou certaines périodes de notre vie, on encaissera mieux que d'autres les silences. Il y aura des moments dans notre vie où on aura besoin de faire silence devant Dieu, d'être là et d'entendre la voix, la parole de Dieu. Et moi, je veux vous encourager, frères et sœurs, à un moment donné, de pouvoir faire silence dans votre temps de prière. Vous voyez, je ne sais pas si vous le faites, mais on a souvent des temps où on loue, on adore, on célèbre, on glorifie le nom de Jésus. Mais je voudrais vous inviter à prendre une demi-heure de votre temps et puis fermer les yeux, vous êtes assis ou allongé, peu importe, et vous faites silence. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a toutes sortes de bruits autour de vous. Toutes sortes de bruits qui viennent là et qui viennent, en interférence, vous essayez de vous troubler, alors que vous essayez dans votre esprit de canaliser ce bruit, de chercher la présence de Dieu. Et il y a des moments où on aura besoin de faire silence devant Dieu. Le silence même pour se ressourcer. J'ai entendu souvent des chrétiens dire, mais moi je pars, je monte à la montagne, je veux marcher, je prends quelques heures et je veux me promener, j'aime bien me retrouver là en silence devant Dieu. Moi personnellement, j'aime bien sortir. Je sors et je pars derrière chez nous, on a une forêt, la forêt d'Arminvilliers, puis là je pars une heure et demie, voire 2 heures parfois, et je me retrouve là devant Dieu, je loue le Seigneur, je parle en langue, je me mets en connexion avec lui, je fais silence dans la nature. Il y a des moments où je parle et je fais silence, des moments où on va se retrouver là parce qu'il y a un besoin dans notre cœur. Puis il va y avoir des moments dans votre vie où le silence va vous créer un vide. Un jour, alors que je faisais une visite chez une sœur dans le sud de la France, là où j'exerçais mon ministère dans une des églises, et je rentre chez elle, elle était sur la table, elle était en train de travailler à table, et alors que je m'assois, qu'on échange ensemble, je dis « Mais pourquoi vous laissez la télévision allumée ?» Elle me dit « Ça met de l'ambiance. » Parce qu'elle ne supportait pas le vide. Parce qu'elle ne supportait pas ce sans-bruit. Ce côté-là, elle avait besoin vraiment de mettre un sort de contexte dans sa vie. Et c'est souvent comme cela, parfois, avec certains chrétiens, où ils n'arrivent pas à louer, à adorer, à célébrer le Seigneur tout seul dans leur chambre. Il leur faut toujours un bruit d'ambiance à côté, des chants, de la louange. Parce qu'ils ne supportent pas le silence. Certains ne supportent pas le silence de gens qui passent à côté de vous et vous ignorent. C'est dur, c'est vrai, d'être ignoré. Et ça fait mal parfois, mais on ne supporte pas. Il y a parce qu'on passe une période, on est peut-être aigri, on est mal, on n'est pas bien. Et puis rien que le fait de voir les gens être indifférents à vous, il y a comme une sorte de blessure qui se crée dans notre cœur. Le silence est souvent identifié à la solitude, à l'isolement. Et c'est ça que l'on a peur, d'être isolé, d'être seul, de ne pas être compris. Le silence est parfois même dangereux parce que quand vous parlez à quelqu'un et qu'il vous fait silence, et juste un signe comme ça, ce qui est dangereux, c'est quand on interprète le silence de la personne. Quand on s'imagine toutes sortes de choses derrière son silence. Et qu'on commence à élaborer toutes sortes de stratégies. Et souvent, ce sont des stratégies qui sont mauvaises. On essaie d'interpréter toutes sortes de choses, mais qui ne sont jamais très bonnes. Et c'est pour ça que derrière un silence, il faut savoir faire silence dans son esprit. Amen. Eh oui. Savoir respecter le silence. Savoir réaliser qu'un silence a quelque chose souvent de spirituel, mais beaucoup ont peur du silence. Parce qu'il nous place face à nous-mêmes. Parce que le silence nous place face à notre moi. Et on le fuit, ce moi. Il y a des moments qu'on n'a pas envie de se confronter à nous-mêmes. Il y a des moments où on n'a pas envie de se retrouver là. C'est pour ça que cette société fait beaucoup de bruit. On est dans un monde où on met de l'ambiance, on veut meubler, on veut combler, parce qu'on a peur. Et cela, malheureusement, touche et affecte souvent les chrétiens. On a peur du vide. On a peur de se retrouver face à soi-même. On a peur de ne rien avoir sur qui s'appuyer, se raccrocher. Alors on essaie de combler quelque chose. Parfois même, on le comble avec du virtuel. Vous êtes arrivé parfois d'assister à certaines réunions, dans des conférences, où on met l'ambiance, beaucoup de bruit, parce que si on met du silence, ce ne sera pas une bonne ambiance. Il y a certaines personnes qui disent « Ouais, je suis sorti de là, c'était fort, c'était super, c'était extraordinaire. » Oui, il y avait beaucoup d'ambiance. Et après ? Parce que la parole de Dieu nous montre que même Dieu a agi dans le silence. Et ce n'est pas toujours du bruit, ce n'est pas toujours dans le vacarme que Dieu intervient. Et on le voit au travers des Écritures. Remarquez le fils prodigue. Quand le fils prodigue est parti, il a pris l'héritage qui lui revenait, il a quitté la maison de son père, et la parole de Dieu nous dit qu'il se retrouve là à dépenser tous ses biens, se retrouver dans la débauche, et puis à un moment donné, alors qu'il n'avait plus rien, il s'est mis sous la coupe d'un patron. Et le patron lui a demandé de garder les pourceaux. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'avait plus rien à manger, il avait le ventre vide, alors que les pourceaux étaient en train de manger. Et il était en train de se rappeler là où il était avec son père. Et regardez ce qui nous est dit dans Luc 15, 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Regardez ce texte, il dit « Étant rentré en lui-même. » À un moment donné, il a arrêté de fuir, de courir, d'aller de l'avant, de s'éclater, de penser à tout et à rien. Et là, il s'est retrouvé face à lui-même. Il est rentré en lui-même. Il a fait silence. Il a commencé à imposer à sa vie la réalité. Il dit, voilà, où j'en suis moi maintenant? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'en suis là? Et en étant lui-même, parce qu'il est rentré en lui-même, il s'est parlé à lui-même, il a scruté son cœur, il a fait une introspection de sa vie. Et c'est à partir de là que le fils a changé d'avis, il est retourné chez son père et il a changé de vie. Parce qu'il a su rester en silence. Parce qu'il a su se remettre, je dirais, en question. Parce qu'il a su éviter de fuir en avant. Par contre, à certains moments de notre vie, Dieu va faire silence. Silence face à la maladie. Et je crois que chacun d'entre nous, à un moment donné dans notre vie, on est dit, mais Seigneur, pourquoi la maladie? Pourquoi la souffrance? C'est-à-dire, pourquoi l'épreuve? Pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Et je crois que tous, à un moment donné dans notre vie, on s'est retrouvés devant Dieu, lui posant cette question. Parce qu'on est dans le dur, parce qu'on est dans la difficulté, parce qu'on est dans l'épreuve. Tu as pleuré, tu étais seul dans ta chambre et tu étais en larmes, personne ne te comprenait. Tu appelles le pasteur, tu dis oui, je vous comprends, on va prier pour vous. Et puis vous raccrochez, vous avez l'impression qu'il ne vous a pas compris. Pourquoi? Parce que c'était votre désert. On en a parlé il y a quelque temps de ça. Notre désert. C'était ton épreuve, c'était ta situation. Et là, tu pries ton Dieu, tu le supplies, tu fais même certaines menaces à ton Dieu, mais il ne répond toujours pas. Et là, j'ai trouvé une pensée qui m'a vraiment, vraiment interpellé. Écoutez bien, si vous vous demandez où est Dieu pendant les périodes d'épreuve, souvenez-vous que le professeur reste toujours silencieux pendant l'examen. C'est fort, hein? On le répète? Allez, on va le répéter. Tu ne le coupes pas, hein, Sergio, hein. Si vous demandez où est Dieu pendant les périodes d'épreuve, souvenez-vous que le professeur reste toujours silencieux pendant l'examen. Comprend pas tout. On ne sait pas pourquoi Dieu parle. Et parfois, on ne sait pas pourquoi Dieu ne parle pas. On ne comprend pas et on ne saisit pas tout de Dieu. Mais on va apprendre à dépendre de lui sans signe, sans ressenti. Sans parole de Dieu, sans don spirituel, sans prédication. Peut-être que tu es venu ce matin, tu as prié en disant, Seigneur, parle-moi au travers du message. Mais c'est mal barré. Parce que Dieu va faire silence. Comprends pas tout du Seigneur. On n'arrivera pas à saisir et tu n'arriveras pas à le faire plier, même en le menaçant de toutes sortes de choses. Même en le menaçant de ne plus lire la Bible, de ne plus venir à l'église, de ne plus donner ta dîme. Mais peu importe, tu ne le feras pas plier parce qu'à ce moment-là, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Et là où tu demanderas des signes, Dieu restera dans le mutisme. Dieu va nous faire voir des choses autrement. Le Seigneur voudra t'amener beaucoup plus loin. Le silence de Dieu est un défi à notre raison. C'est terrible parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à saisir tout cela, mais parfois, il nous faudra passer par l'acceptation du lâcher-prise. Ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas absolument à ce que Dieu te parle. Et parfois, on a fait cette erreur en disant, voilà, je vais venir et je vais attendre la parole de Dieu. Et toutes sortes de dons spirituels, de chants, de phrases, de prédications, même des phrases dans la prédication, hop, on va se l'approprier pour nous, en disant, ah, mais Dieu m'a parlé, mais tu n'es pas du tout convaincu. Hein. Mais Dieu, tu crois qu'il t'a parlé. Parce que tu veux absolument que Dieu te parle. Parce que tu veux absolument que le Seigneur vienne parler à ton cœur. Et tu restes là, je dirais, comme vraiment déconcerté face à cette situation. L'écrivain Jean-Paul Sartre disait, « Dieu se tait donc, il n'existe pas. » Ça, c'est un raccourci, vous voyez. Un raccourci purement humain. Mais quelqu'un a dit, « Apprends le silence et tu apprendras à l'entendre. » Apprends le silence et tu apprendras à l'entendre. À entendre la voix du maître, à entendre la voix de Dieu. Parce que le silence fait appel à notre foi. Dans Exode chapitre 14, il dit que l'Éternel combattra pour nous et vous gardez le silence. Le Seigneur va combattre pour toi, garde le silence. Garde le silence face à certaines réactions, attitudes, certains conflits. Dans mon cœur, pendant que je préparais ce message, j'avais quelque chose qui était là et ça peut s'adresser à quelqu'un ce matin. Tu as peut-être des bons arguments, mais Dieu t'impose le silence. Tu t'es dit, je vais aller au boulot demain matin, je vais régler cette affaire, j'ai des arguments pour régler ce problème. Et Dieu te dit, tu vas te taire, tu ne vas pas parler. C'est moi qui vais te défendre, c'est moi qui vais te justifier, c'est moi qui vais parler à ta place. Tes arguments sont bons, mais les miens sont meilleurs. Et Dieu voudrait que ce matin, tu puisses faire silence, que tu apprennes à laisser Dieu te justifier. Là où tu t'es toujours battu à vouloir le faire par tes propres forces et par tes propres capacités. Ça fait partie du plan de Dieu là aussi. À savoir faire silence pour laisser Dieu mieux agir. Pour laisser Dieu, je dirais, agir efficacement, de manière miraculeuse, de manière puissante. Pour ça qu'il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce n'est pas toujours évident de garder le silence. Il y a des moments où on se retient, on se dit, j'aimerais tellement lui rentrer dedans. Eh bien non, tu ne vas pas lui rentrer dedans. Non, tu ne vas rien dire. Tu vas laisser Dieu agir. Tu vas laisser le Seigneur se manifester. Parce que le silence est aussi une école, l'école de Dieu. Et Abraham, eh bien, l'a expérimenté à plusieurs reprises. Et quand on regarde la parole de Dieu, quand on survole les Écritures, on voit tellement d'hommes qui ont été touchés, bousculés, remués, interpellés par le silence. Et l'exemple avec Abraham, dans Genèse chapitre 22, verset 2, Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Vous connaissez ce texte ? Alors que l'Éternel lui dit, voilà, tu vas prendre ton fils et tu vas me le donner en sacrifice selon mon Morija. J'appelle ça le silence du Morija. Abraham sait que Dieu va agir, mais il ne sait pas comment. C'est ça qui est incroyable dans nos épreuves, c'est qu'on sait que Dieu pose sa main sur nous. Alléluia. On sait qu'on va sortir de là, mais comment, quand ? Et parfois dans ce temps-là, dans ce laps de temps où on attend la sortie, on voudrait tellement que Dieu nous parle. Vous voulez tellement que le Seigneur nous donne au moins juste une petite parole d'encouragement, puis on continue notre chemin. Ben, rien du tout. Et c'est ça qui est désarmant, c'est ça l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est savoir faire confiance, même s'il n'est pas là, entre guillemets, il n'est pas là. On se comprend. Même quand il ne parle pas. Et là, il y a eu ce silence de Morija. Mais il y a un détail intéressant au verset 5 de Genèse 22. Il a dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, parce qu'il était parti avec des serviteurs, il y avait l'âne, tout ça, il dit, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons là-haut pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé, il a dit, nous reviendrons auprès de vous. Alors qu'Isaac devait être apporté en sacrifice, alors qu'Abraham devait le tuer et le mettre en sacrifice, il dit ceci avant même de monter, nous reviendrons auprès de vous. Nous montons pour adorer, alors que le Seigneur lui a dit très clairement qu'il va l'apporter en sacrifice. Il sait aussi qu'il doit obéir et marcher. Pour ça qu'Isaac dit, mais papa, c'est bien, on a le bois, on a le feu, mais où est le sacrifice ? Et c'est là où c'est terrible. Ce qui est terrible, c'est que son père n'a pas pu répondre. Ce qui est terrible, c'est que son père n'a pas pu lui dire. Abraham est face au conflit du silence de Dieu, à l'école du silence. Abraham ne cherche même pas à poser la question à Dieu. Il ne dit pas, écoute, Seigneur, parle-moi, c'est juste pour mon fils, que je puisse lui expliquer, que je puisse lui répondre. Oh, c'est vrai que Abraham avait reçu cette parole en disant, mais Dieu pourvoira. Il y avait dans son cœur quelque chose de divin, de spirituel, mais quelque part, il y avait vraiment ce silence de Dieu parce qu'Abraham ne comprenait pas tout. Un silence déchirant, un silence criant, un silence de sacrifice. Et je voudrais dire entre nous comme cela, frères et sœurs, je ne sais pas ce qui est le plus dur, si c'est le silence ou l'épreuve. Parce que vous savez, quand on est dans l'épreuve, bon, on y est, voilà, on prie, on s'accroche, on cherche vraiment la grâce de Dieu, mais quand Dieu ne parle pas dans l'épreuve, qu'est-ce qui est le plus dur, le silence ou l'épreuve? C'est ça qui est difficile à vivre. Abraham passait par cette épreuve, il montait sur cette montagne, il allait apporter son fils en sacrifice et il ne pouvait rien dire, il ne savait quoi dire parce que Dieu ne lui avait pas parlé. Mais il y a eu la délivrance, il dit Abraham, Abraham, et l'ange dit, c'est au verset 11, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien de mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils unique. » Écoutez-moi bien, frères et sœurs, remettons-nous dans le contexte. Il se retrouve sur cette montagne, il attache son fils, il le met sur l'autel, et là il prend le couteau. Et au moment où il va pour le tuer, parce que dans sa tête il allait le tuer, puisque l'ange le dit, vous savez, Dieu sonde nos cœurs et nos reins. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais que tu crains Dieu, parce que tu n'as pas hésité à donner ton fils. Dans son cœur, Abraham était prêt à tuer son fils. Il avait fait cette démarche, pour lui, c'était très clair, alors que Dieu ne lui parlait toujours pas. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est difficile à vivre, mes frères et sœurs. Mais si nous passons par là, parce que c'est bien beau de dire, ouais, je veux la bénédiction, je veux le miracle de Dieu, je veux le prodige de Dieu, je veux voir des choses extraordinaires de Dieu. Moi, je dis amen. Mais si on n'est pas capable de passer par là, il sera difficile d'aller plus loin. Si on n'est pas capable d'accepter le silence de Dieu sur notre vie, il sera difficile de faire un pas de plus. Et l'exemple qu'a vécu Abraham, c'est un exemple dur, difficile, éprouvant, vraiment insupportable, mais lui est passé par là. Dieu ne te demandera pas forcément de passer par la même épreuve, mais accepte le silence qu'il te donne. Accepte le silence qu'il t'impose, qui n'est peut-être pas toujours facile, certes. J'en conçois, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de savoir comment tu vas réagir face à ce silence. C'est pour ça que c'est toujours compliqué d'expérimenter cela, parce que c'est quelque chose de très personnel. Le silence de Dieu ne signifie pas absence. Il n'est pas aux abonnés absents, le Seigneur. On sait qu'il est là. Et j'ai un exemple, c'est le livre d'Esther qui peut le relater, ce livre extraordinaire. Mais ce livre nous parle d'exploitation sexuelle, nous parle de vengeance personnelle de la semence, d'un génocide sans précédent parce qu'on voulait tuer tous les Juifs. Et pourtant, frères et sœurs, pourtant dans ce livre, alors qu'on trouve des choses horribles, nous remarquons l'absence du nom de Dieu tout au long de ce livre. On voit la main de Dieu agir devant tous ces péchés, l'exploitation, la vengeance, le génocide. Et malgré tout cela, on voit la main de Dieu intervenir, protéger son peuple alors qu'il a failli être massacré dans tout le territoire. On a vu la puissance de Dieu agir. Dieu est en filigrane dans ce texte. Vous savez, filigrane, ce qui est formidable, c'est une feuille. Et cette feuille, quand vous avez ce texte qui est comme une sorte de transparence, vous le mettez à la lumière, vous voyez ce texte apparaître dans cette feuille blanche. Et dès que vous le remettez dans l'ombre, vous ne voyez plus ce filigrane. C'est pareil quand on est dans la difficulté, quand on est dans le trouble, dans le noir, on ne voit pas réellement Dieu, mais il est là. Et c'est à la lumière de sa parole qu'on voit apparaître sa présence. On voit apparaître la bénédiction de Dieu. C'est dans son silence que Dieu agit de la même manière. Quand Dieu fait silence sur ta vie, il agit en filigrane, en toi. Tu ne le vois pas, mais il est là. Tu ne le ressens pas, mais il est présent. Tu n'arrives pas à retirer de la lecture biblique des paroles nourrissantes, mais pourtant, il est réellement présent. C'est peut-être même pour toi quelque chose de déconcertant. Tu t'es même posé la question de dire, mais à quoi bon continuer à lire la Bible ? Eh bien, le Seigneur te dit, continue parce que je suis en filigrane sur ta vie. Le silence est comme, vous savez, dans le traitement de texte, vous avez le tiré, et puis espace, tiré, espace, tiré, espace. C'est pareil avec Dieu. Tiré, espace, Dieu parle, Dieu est silence. Dieu parle, Dieu fait silence. Dieu parle et Dieu fait silence. Ça représente la ligne de notre relation avec Dieu. Mais ça fait un trait. Et dans ce trait, vous avez des espaces blancs, qui sont ces silences de Dieu. Mais au travers de ces silences, finalement, Dieu est en train et continue à diriger, à conduire ta vie, ton existence. Un autre exemple, c'est comme le Takiwalki. Qui connaît le Takiwalki ici ? Vous pouvez lever la main. Hein ? Voilà, là, il y a tous les vieux qui lèvent la main, là. Non, je rigole. Takiwalki, l'avantage du Takiwalki, c'est que contrairement au portable, ce genre de conversation exige d'écouter et de parler à tour de rôle. Si vous appuyez tous les deux sur le bouton, on ne va pas s'entendre. Il faut qu'un des deux qui relâche le bouton pour entendre l'autre. Et ça, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça exige le silence pour écouter l'autre. Et Dieu va agir comme cela en Takiwalki avec toi. Vous voyez comme quoi c'est moderne, hein ? Ça n'a pas changé, hein ? Il n'y a pas d'ombre de variation avec Dieu. À un moment donné, tu vas être obligé de lâcher le bouton pour entendre la parole de Dieu. Et puis, à un moment donné, tu vas appuyer sur le bouton et Dieu va faire silence pour t'écouter. Et c'est ça, Takiwalki, avec le Seigneur. Et ce n'est pas dans le brouhaha que tu pourras faire ça, mais dans le silence, dans le repos de Dieu, dans la confiance au Seigneur. C'est pour ça que dans l'Église, chapitre 3, verset 7, il est dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps où tu auras besoin d'écouter Dieu et un temps où tu auras besoin de parler à Dieu. Jésus parlait beaucoup, mais faisait souvent silence. Et très souvent, dans le ministère de Jésus, il a fait silence. Déjà, le silence des 30 ans de sa préparation au ministère. Où là, pendant 30 ans, on n'entend pas parler de lui. Puis après, les 40 jours dans le désert. Puis quand vous regardez dans les Écritures, à plusieurs reprises, que ce soit pour un aveugle, un paralytique, pour ce soit pour toutes sortes de personnes, il dit ceci, garde-toi de rien dire à personne. Et vous savez que la plupart du temps, les gens criaient quand même, rendaient témoignages. Mais il leur disait souvent, ne dites rien à personne. Que dire des silences de Jésus face à Pilate, à Hérode, aux grands prêtres religieux, alors qu'il allait être condamné à la croix du calvaire. Ils étaient tous débités face au silence de Dieu. Ils étaient tous bouleversés de voir, et particulièrement Pilate, il dit, mais attends, mais tu dis rien alors qu'on est en train de t'accuser. Il est resté en silence. Il avait ses raisons. Et parfois, il restera en silence devant toi, il aura ses raisons. Et c'est pour cela que tu as besoin d'accepter cela. Dans le silence de Dieu, nous prenons conscience de nos limites, de nos places, et de la place de l'homme face à Dieu, la place de l'homme face au roi des rois, au seigneur des seigneurs. On réalise notre limite face au silence de l'Éternel. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que dans certains silences, et on le retrouve dans la parole de Dieu, je vais vous lire ce texte, il est dit, certains commentateurs hébreux de la Genèse ont fait remarquer que le premier mot de la Bible commence par un B, Berichi, ça veut dire au commencement, ça veut dire Berichi hein, en hébreu. Et ça, c'est un mot qui est formidable, qui veut dire au commencement. Et avant le B, il y a le A normalement. Hein, dans la lettre de l'alphabet, c'est A, B, C, D. Mais avec Dieu, ça commence par B. Le A qui veut dire Aleph, qui est Dieu, ben, n'est pas cité. Dieu commence par la lettre hébreu, Berichi, c'est-à-dire par la lettre B. Le A est absent. Nous pouvons connaître les choses à partir du B, mais il y aura un silence à partir du A. Un silence que nous devons respecter, le silence qui exprime et qui exprimera toujours l'infinie distance qui sépare la créature à son créateur. C'est très fort, ça. Très fort de voir qu'il laisse toujours un espace de silence, Dieu. Au début, puis 400 ans avant la venue de Jésus, et puis après, très régulièrement, à la croix du calvaire, il y a eu un temps de silence. C'est-à-dire, dans des moments forts de l'histoire de l'humanité, Il y a eu des temps de silence. On avait peut-être besoin de se remettre en question, se remettre en ordre dans notre vie, dans notre cœur. Le grand danger, c'est quand on fait parler Dieu là où lui fait silence. C'est pour ça que dans Habacuc 2:3, il est dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, ben attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mon frère, ma sœur, attends la prophétie, parce qu'elle s'accomplira. N'essaye pas de forcer la main de Dieu. N'essaye pas de faire parler Dieu là où il veut faire silence. De faire agir ou réagir Dieu là où il ne veut pas bouger. Respecte ce que Dieu veut pour ta vie. Parce qu'il y a un enseignement derrière. Il y a quelque chose de très fort derrière. Abraham n'est pas sorti indemne de son expérience avec Isaac, son fils. Il est sorti, mais en passant à la vitesse supérieure, en allant beaucoup plus loin. Ce jeune homme qui est rentré en lui-même, il n'est pas sorti indemne de cette situation. C'est-à-dire qu'il a changé d'avis et puis il est rentré dans une autre vie. Il est passé à autre chose. Dieu a impacté, a touché, a bouleversé son cœur parce qu'il a su rentrer en soi-même. Et si vous remarquez bien dans le texte du fils prodigue, c'est que quand il rentre à la maison, son frère, lui, il est furax. Lui, il n'était pas rentré en lui-même. Lui, il ne s'était pas remis en question. Il était en colère de voir son frère arriver comme cela. « Ouais, ça y est, on va lui faire la fête et moi, mais toi, tu as tout ce qu'il faut. » Et le père est venu lui en parler à son fils. « Mais mon fils, tu avais tout à la maison, il te faisait juste de te servir. » Il n'avait pas tout saisi de la pensée, de la présence de Dieu, de la dimension de Dieu sur sa vie. Il fallait que peut-être à un moment donné, lui-même, le frangin, puisse rentrer en lui-même et réfléchir sur son état au lieu de regarder son frère. Alors je t'invite, mon frère, ma sœur, à rentrer en toi-même. Je vous garantis, ça fait pas mal. Mais ça nous met face aux responsabilités, face à notre propre vie. Que Dieu nous donne d'apprécier son silence. Que Dieu nous donne à apprécier même le silence que nous allons faire en nous pour que vraiment Dieu agisse puissamment au plus profond de notre cœur. Est-ce que tu veux l'accepter, ça ? Est-ce que tu veux rentrer dans les plans divins sur ta vie? Ou est-ce que tu veux contester Dieu, contester le Seigneur? J'ai vu des chrétiens vraiment en colère contre Dieu parce que Dieu ne leur parlait pas. J'ai vu des chrétiens vraiment mettre des ultimatums à Dieu. Moi, ça me fait peur. Parce que si Dieu ne parle pas, c'est qu'il a une bonne raison de ne pas parler. Et Dieu ne se soumettra jamais à nous. Il ne se soumettra jamais à toi. Jamais à moi, jamais à personne. Et je crois que nous avons besoin tout simplement, peut-être, de nous retrouver là, c'est-à-dire, écoute, si tu as quelque chose à me dire, alors parle-moi. Je veux me soumettre, je veux lâcher prise. J'ai essayé de forcer ta main, j'ai essayé de te faire parler, j'ai essayé de sortir un petit peu les vers du nez, comme on dit, l'expression. J'ai essayé de te faire parler au travers des écritures, des dons spirituels, essayer d'interpréter des textes, ou même à la prédication, puis des gens qui me parlent, toujours être à l'affût, et je m'aperçois qu'il n'y avait rien de convaincant. Alors je veux me soumettre, je veux lâcher prise. Ok, Seigneur, j'accepte ton silence. Il ne sera peut-être pas facile, Seigneur, mais j'accepte ton silence. Parce que je sais que tu as quelque chose à me dire. Tu veux énormément me parler au travers de ton silence. Courbez nos fronts quelques instants. Jésus, 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 alléluia. Permettez qu'on reste quelques instants dans le silence. Puisse rentrer en toi-même, t'examiner. Est-ce que tu sens Dieu te parler? Tu es peut-être comme ce fils prodigue, tu es confronté à toi-même. Tu te retrouves face à toi-même, face à tes lacunes, à tes faiblesses. Alors que tu rentres en toi-même, le Seigneur est en train de travailler ton cœur. Là où tu attendais du bruit pour qu'il te parle, le Seigneur t'invite au silence pour qu'il t'enseigne. En fait, dans le silence de Dieu, sur cette prédication, Dieu t'a parlé. Et le Seigneur a encore beaucoup de choses à te dire dans le silence. Il y a des choses à te dire que nulle prédication, nul conseil de frères, de sœurs t'apporteront. Il y a des choses qui seront dans l'intimité du Maître. Il y a des paroles que tu pourras recevoir dans l'intimité du Roi, dans ce lieu saint. Le Seigneur t'invite ce matin à lâcher prise, à capituler. Là où tu as forcé pour une réponse, maintenant tu vas lâcher prise pour un silence. Parce que c'est là qu'il va te parler, c'est là qu'il va t'enseigner. Comme il a enseigné Abraham, il va t'enseigner dans ta situation. Alors je vais prier maintenant pour que le Seigneur te touche personnellement, intervienne personnellement sur ta vie. Peut-être que tu es dans ce désert que j'ai prêché il y a quelque temps de cela, qu'il y a encore. Et c'est justement dans ce désert où tu poses la question au Seigneur, Père, quand est-ce que j'en sors? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce désert? Et c'est justement là où il veut faire silence avec toi. 40 jours dans le désert, Jésus a fait silence. Et c'est à la fin qu'il y a eu ce combat spirituel. Mais Dieu lui a donné les paroles au bon moment. Dieu a posé sa main sur ce fils. Dieu veut poser sa main sur toi. Alors on va prier ensemble maintenant. Pour que Dieu impacte ta vie. Pour que Dieu te touche puissamment. Et que tu t'abandonnes entre ses mains. Que tu arrêtes de lui dire les pourquoi, les parce que. Que tu essaies de lui poser toutes sortes de questions qui t'amène bien souvent à être irrité, à être froissé, à être blessé. Ça t'amène dans des états, dans des émotions néfastes, alors que Dieu aimerait tellement que tu restes en paix. Où est le sacrifice, Seigneur? Et Seigneur te demande de marcher, de monter sur cette montagne. Il pourvoira, t'inquiète. Laisse faire. Seigneur, je veux te prier. Je veux te demander de poser ta main sur ton peuple, sur chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, nous savons ou nous ne savons pas, nous ne comprenons pas toujours tes silences, c'est vrai. On est tellement petit devant toi. On est tellement faible devant ta face. Seigneur Jésus, parfois on est déstabilisé face, Seigneur, à tes attitudes, parce qu'on ne te comprend pas toujours, parce qu'on n'arrive pas à discerner réellement ce que tu veux pour notre vie. Mais nous voulons lâcher prise, parce qu'en lâchant prise, on va mieux comprendre ce que tu veux pour nous. Seigneur, garde-nous de nous rebeller, garde-nous de nous braquer, garde-nous de réagir, Seigneur Jésus, vraiment avec des sentiments qui sont loin d'être les sentiments de Dieu. Seigneur, tu es dans tes mains ce matin sur ton peuple. Tu es dans tes mains sur notre vie ce matin, alléluia. Puissions accepter ces silences. Seigneur Jésus, comme ce takiwalki, un temps, Seigneur Jésus, on te parle, tu restes en silence, un temps, tu nous parles et nous restons en silence. Seigneur, qui est ce contact qui est là, Seigneur Jésus, comme ce trait, Seigneur Jésus, et ce trait qui est le ligne, le trait de notre vie, de notre existence. Seigneur, viens nous toucher, Seigneur, ce matin. Viens agir sur notre vie, alléluia. Parce qu'on n'aura pas les réponses à tous les pourquoi, mais Seigneur, nous confiant en toi, on restera en paix. Confiant entre tes mains, Seigneur, dépendant de toi, alléluia. Seigneur, parce que nous voulons te faire pleinement confiance, nous voulons nous mettre à tes pieds, Seigneur Jésus, saisissant, Seigneur Jésus, tes paroles, savons que, Seigneur, pendant l'examen, tu restes, c'est vrai, en silence, mais tu es là, tu es présent, tu es en filigrane, Seigneur, sur notre vie, et tu marches pas à pas à côté de nous, alléluia, en nous et pour nous. Alors, merci, Seigneur, pour, Seigneur Jésus, ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, parce que tu nous as fait cette promesse que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Que ton nom soit béni et qu'à toi seul revienne toute la gloire céleste. Père, au nom de notre Sauveur. Amen. Et amen.